Il est 7h03 minutes. Luc Fortin, bonjour.
Bonjour, Louis.
Alors, bon, évidemment, il y a beaucoup de mécontents là, à la suite de la publication de la carte sur les zones inondables du gouvernement. Il y a eu des consultations à peu près dans toutes les régions. Les gens sont pas contents.
Bien, partout au Québec, hein, je peux te dire qu'il y avait du monde à la messe hier dans la chapelle du mécontentement. Et il y avait beaucoup de gens qui ont assisté à ces consultations-là. On me disait à Campbell Bay, écoute, ouais, une petite ville en Outaouais, 500 personnes en plein après-midi juillet. Hier soir, on me dit près de 2000 personnes à Vaudreuil-Dorion. On a vu qu'il y avait du monde dans l'ouest de Montréal, dans les Basses-Laurentides. Et là, si on recule un petit peu dans le temps, Louis, c'est que suite aux inondations de ce printemps, le premier ministre nous a dit qu'il était temps de revoir nos façons de faire, puis que là, les contribuables ne pouvaient pas toujours payer pour reconstruire des maisons. Et ça avait été plutôt bien accueilli comme idée. Il avait été applaudi pour ça. Mais, comme c'est souvent le cas pour les gouvernements, c'est dans l'application d'une idée que ça se corse, et là, ça se corse royalement pour le gouvernement Legault dans ce dossier-là, parce qu'il a adopté un décret pour justement déterminer une nouvelle zone d'intervention spéciale, une zone qui, selon lui, va aider à la meilleure gestion des zones inondables. Mais l'enjeu, évidemment, ça demeure la délimitation de la fameuse zone. Puis mais là, ben, les gens sont en colère.
Ben oui, mais c'est un peu normal quand t'es dans zone de pas être content, là.
Oui,
ça, mais le problème, là, ça, là.
Ben, oui, ben, c'est sûr. Mais les gens qui sont pas contents, Louis, là, c'est qu'il y en a qui disent, regardez bien, là, moi, j'ai pas été inondé en 2017, j'ai pas été inondé en 2019. Je pense pas que ça soit réaliste de penser que je vais être inondé dans les 20 prochaines années. Il y en a qui nous disent, regardez, là, ma maison est en haut d'une falaise. Là. Physiquement, c'est impossible que je sois inondé, mais je me retrouve quand même dans cette zone-là. Et là, les conséquences pour ces gens-là demeurent quand même importantes. Parce que, évidemment, si tu as un terrain, tu prévoyais construire quelque chose, tu peux pas le faire, tu peux pas agrandir ta maison, tu peux pas y ajouter un garage, tu peux pas y ajouter un cabanon. Si elle est incendiée, tu dois la reconstruire sur les mêmes fondations. Alors ça, tu peux bien t'imaginer, Louis, que ça va avoir un impact important sur la valeur de revente de la maison et puis qui sera inévitablement à la baisse. Les coûts d'assurance seront à la hausse. C'est plus compliqué également faire ton renouvellement hypothécaire. Alors ça, il y a bien du monde qui sont fâchés de ça. Tu as les maires aussi, eux autres, qui sont fâchés parce qu'il y en a des petites villes qui se retrouvent au complet dans cette zone d'intervention spéciale ou des quartiers au complet, puis les conséquences peuvent être très, très importantes pour ces municipalités-là parce que tu ne peux plus rien construire. Tu ne peux plus construire de maisons, de commerces, d'industries, alors ça a un impact sur le développement économique. Tu ne peux plus construire de bâtiments municipaux non plus, alors tu es limité dans l'offre de services que tu peux offrir à ta population. Je parlais avec une élue hier, elle me dit, regardez là, M. Fortin, nous, dans notre coin, on va avoir besoin d'agrandir une école. Puis là, l'école se retrouve dans la zone. Donc, on pense qu'on ne pourra pas le faire. Et là, il y a des besoins, il y a des enfants, il y a un quartier qui continue d'être animé. Alors, il y a des conséquences qui sont quand même importantes. Puis surtout pour les villes aussi, ben, les financières, parce que si tu ne peux plus développer, ben c'est sûr que ta croissance de revenus en taxes municipales, elle devient limitée.
Là, je comprends, mais en même temps, on est tanné de payer pour des inondations en répétition. Il y a des endroits, les gens se sont inondés depuis quelques années, là, depuis 5 ans.
C'est clair.
Il y en a qui se fait 3 fois qu'ils se font inonder.
Absolument.
Là, tu dis,
alors, tout le monde est d'accord avec ça, Louis. Mais c'est pour les gens qui, eux, ne peuvent pas être inondés puis vont subir quand même les conséquences. Parce que c'est ça le problème. Je pense qu'au niveau du principe, les gens partagent ton avis puis je suis de ton avis. Mais c'est de la façon dont la carte a été déterminée, là. Visiblement, là, il y a beaucoup d'aberrations.
Mais c'est pas pour ça qu'ils font des consultations?
Ben oui, mais en même temps, là, ils ont fait une consultation. Ils disent avant la consultation que la carte n'est pas finale et puis qu'il y a des erreurs. Alors, ils auraient dû faire leur travail comme il faut avant de soumettre ça à consultation. Parce que là, le doute qu'il y a dans la tête des gens et dans la tête des élus municipaux, c'est que le gouvernement a pas mal fait son nid. Puis dans quelle mesure il va modifier la carte suite aux consultations? Alors, la ministre, elle se fait rassurante. J'ai parlé à son cabinet hier. On dit oui, on sera à l'écoute. On veut travailler justement avec les partenaires municipaux. Mais il y a un doute qui persiste là, visiblement, puis je pense que la ministre elle doit envoyer un message fort en disant, regardez, là, hier, on a vu le résultat des consultations. On prend toute la mesure du mécontentement, on va refaire nos devoirs et on va vous revenir avec une nouvelle carte, quitte à la remettre, elle aussi, en consultation. Parce que tu sais que le gouvernement a fait le plein de capital, de sympathie, de capital politique dans sa gestion des inondations ce printemps. Mais là, moi, je pense qu'ils risquent de perdre encore plus si jamais ils ne revoient pas leur façon de faire avec cette fameuse zone d'intervention spéciale.
Bon, et la zone d'intervention, d'ailleurs, qui vient s'ajouter à la liste des sujets pour lesquels tu trouves qu'il y a un manque d'écoute là, du gouvernement.
Ben oui, puis tu fais partie des journalistes qui couvrent la colline parlementaire à Québec. Puis dans plusieurs cas, ce printemps-là, on a entendu des groupes dire, ben regardez, on a participé aux consultations, mais on a l'impression qu'on n'a pas été entendu, que le gouvernement a déjà fait son idée dans le cadre d'études de projet de loi qui a été soumis à l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres qui ont dit, ben ça donne rien d'y aller parce que le gouvernement a déjà fait son idée. Alors, là, le gouvernement, ça va bien son affaire, il est populaire dans les intentions de vote, toujours en lune de miel. Il fait flèche de tout bois avec ses engagements en disant, regardez, on a reçu un mandat fort, un mandat de changement.
Ouais.
Et c'est vrai, les gens apprécient ça. Alors ça, c'est une réalité. Mais en même temps, les gens, ce qu'ils veulent, c'est aussi un gouvernement à l'écoute. Et là, je trouve que le gouvernement commence à multiplier les petites poches de mécontentement.
À quoi tu fais référence?
Ben regarde, ça, la zone d'intervention, c'est un exemple.
Ouais.
Les chauffeurs de taxi, c'est un autre exemple dans le projet de loi 17. Les anglophones, c'est un autre exemple avec la volonté du gouvernement d'abolir les commissions scolaires. Les gens du réseau des services de garde, c'est un autre exemple avec les maternelles 4 ans. Puis bon, tu as eu les gens de la santé publique dans le cadre du projet de loi sur le cannabis. Alors, quand tu commences à accumuler les petits groupes comme ça, à un moment donné, ça fait beaucoup de monde. Puis il y a des dossiers qui marquent plus que d'autres. T'sais, on dit souvent que la mémoire politique,
c'est 6 mois. Mais en même temps,
politique,
le gouvernement se fait élire sur un programme. Tu sais, tu parles des maternelles 4 ans. François Legault, ça fait des années qu'il parle des maternelles 4 ans. Il arrive en campagne électorale, un de ces sujets phares sur lesquels
absolument.
Il dit... À un moment donné, s'il le fait pas,
il va se faire reprocher de ne pas tenir son engagement.
Ses promesses.
Mais c'est toujours dans l'application. Ouais. Puis dire, on peut comprendre que le gouvernement veut réaliser ses engagements, mais en même temps, il y a des gens qui ont des préoccupations. Puis je pense qu'il faut juste manifester de l'ouverture, de l'empathie face à ces préoccupations-là. Puis dire, ben regardez, peut-être qu'on peut... On ne dérogera pas de notre feuille de route. On a des objectifs, on a été élus pour ça. Mais en même temps, il y a peut-être des aménagements qui peuvent être faits. Alors, je pense que c'est un petit peu ça que le gouvernement doit faire. Je pense qu'ils doivent, s'ils veulent maintenir cette popularité-là, là, le plus longtemps possible, tout simplement manifester un petit peu plus d'écoute face aux doléances qui sont exprimées dans la société par certains groupes.
Et annonce aujourd'hui de François Bonnardel en matière de transport aérien en région.
Ah oui, alors ça, je pense que ça risque d'être très, très bien reçu. François Bonnardel sera dans la région de l'Estrie ce matin. Il va faire une annonce nationale pour la mise en place d'un nouveau programme qui va s'appeler le programme d'aide pour les décès aérienne régionale, qui va avoir évidemment pour but d'améliorer les services aériens en région. Ce nouveau programme-là va avoir une enveloppe budgétaire, Louis, de 22,5 millions de dollars jusqu'au 31 mars 2022. Alors, il y a quand même beaucoup d'argent là-dedans. Puis concrètement, là, ce programme-là, comment il va venir en aide aux aéroports régionaux? C'est que, par exemple, si un opérateur qui veut mettre en place une nouvelle liaison, le gouvernement va pouvoir absorber jusqu'à 50 % de son déficit d'exploitation, jusqu'à concurrence de 500 000 $. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est ça qui limite l'offre de services en région. Il y en a des opérateurs qui voudraient mettre en place des nouvelles liaisons, mais à court terme, c'est souvent peu rentable. Et là, ces gens-là ne veulent pas prendre le risque financier seul. Donc, le gouvernement va venir en aide. Et aussi, les aéroports régionaux ont besoin d'autres services, souvent ont des moyens limités, comme par exemple des services de réservation en ligne. On peut de moyens pour faire des études de marché, d'études d'impact économique, pour faire des plans d'affaires. Alors, il y aura des sommes également dans ce programme-là pour leur venir en aide. Ce matin, l'UMQ, la FQM seront sur place. Je pense qu'ils seront très positifs par rapport à cette annonce-là, parce qu'on sait que les aéroports régionaux sont d'une grande importance pour le développement économique des régions, mais je dirais aussi de tout le Québec. Ce qu'on souhaite, oui, évidemment, favoriser les échanges interrégionaux, puis ça inclut Montréal, Québec. On veut que les gens d'affaires puissent se déplacer facilement. On veut que les touristes puissent se déplacer facilement parce que c'est beau le Québec, mais c'est grand et ça coûte cher aussi les billets d'avion. Alors, si on vient en aide aux aéroports régionaux, on risque de réduire les coûts pour les contribuables également, pour les utilisateurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le Québec, moi. Je pense
que l'idée, c'est de favoriser la concurrence parce qu'en ce moment,
il y a un
transporteur qui fixe les prix, puis il ne fixe pas au plancher, il est fixe au plafond.
Hein. Ben oui, puis ça te coûte plus cher faire un vol interne au Québec que d'aller à Fort Lauderdale. Fait que quand tu fais un choix de vacances, ça devient bien évident d'aller à l'extérieur.
Merci, Luc.
Hey, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Bye-bye.